Et vos asseoir. Avant de commencer le sermon, une petite note pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Je voudrais m'excuser si parfois techniquement l'image et le son ne sont pas exactement en accord sur le. Quand on... vous pouvez visualiser la vidéo de la messe sur Internet, on n'a pas exactement de matériel adéquat pour le moment. Donc on espère pouvoir l'avoir rapidement. La personne qui m'aide à partir d'Andorre. Bloqué par le confinement, donc ne peut pas venir m'installer exactement le matériel dont j'ai besoin ici. Donc ça sera dès que possible. Alors soyez un petit peu patients. Si les choses ne sont pas parfaites au début, ça ne durera pas, j'espère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui la Sainte de la Patrie, Sainte Jeanne d'Arc. Et s'il est une sainte qui est adaptée pour nos temps modernes, c'est bien celle-là. Sa fête, c'est le 30 mai, jour anniversaire de la délivrance d'Orléans, mais par décret du gouvernement français, après sa canonisation par le pape Benoît XV en 1920, la solennité en France est obligatoire le deuxième dimanche du mois de mai. Il y a beaucoup à dire sur cette sainte. Elle a dû attendre très longtemps avant d'être canonisée. Elle est morte en 1431, 1412-1431 sont les deux dates de Sainte Jeanne d'Arc. Elle est morte, brûlée vive, comme hérétique, relapse, excommuniée par l'évêque Cochon, l'évêque de Beauvais, condamné par l'Université de Paris, sur la place du marché, donc le 30 mai 1431. Et elle a dû attendre tellement longtemps, pourquoi? À cause des oppositions très fortes contre la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Évidemment, dans sa vie, il y a quelque chose qui fait désordre. Sainte Jeanne d'Arc, c'est l'intervention directe du bon Dieu dans les affaires politiques d'un pays. À ma connaissance, c'est arrivé deux fois. Première fois, c'était avec le peuple hébreu. Dans l'Ancien Testament, on le voit très bien, un peuple tout à fait spécial, choisi par Dieu pour l'Ancien Testament, puisque ça va être de ce peuple que va sortir le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on voit très bien dans toute l'histoire du peuple hébreu comment Dieu intervient, alors pas qu'une fois, mais des dizaines de fois, directement dans les affaires politiques du pays, du peuple hébreu, pour les amener en terre promise, et puis après, avec tous les juges, en choisissant lui-même les différents juges et les différents rois, et par tous les prophètes. Ici, c'est arrêté, moment où, hélas, ce peuple élu, dans son immense majorité, a refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le deuxième cas, c'est avec la France. C'est pour ça que la France est nommée fille aînée de l'Église. Souvent, les gens ne comprennent pas, mais disent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il que la France ait été nommée fille aînée de l'Église, alors que ce n'est pas le premier pays à être converti officiellement? Le premier pays à être converti officiellement, c'est l'Arménie. À peu près 150 ans avant Clovis. Clovis a amené la France... Avec tous ses soldats, la France, on peut dire, elle s'est convertie la nuit de Noël 496, sous l'influence de sa femme, son épouse, Sainte Clotilde, et sous l'influence de Saint Rémy, évêque de Reims. Mais l'Arménie a été convertie longtemps avant, 150 ans avant, par l'intermédiaire d'un très grand saint qui s'appelait Saint Grégoire l'Illuminateur. C'est lui qui a converti toute l'Arménie. Alors, pourquoi la France est-elle déclarée fille aînée de l'Église? Parce que justement, pour la France, il y a une situation, une circonstance très spéciale, le bon Dieu est intervenu directement dans ses affaires politiques. D'abord, premier cas, première chose, en faisant intervenir Sainte Jeanne d'Arc pour aller dire au dauphin, le futur Charles VII, qu'il était légitimement le futur roi de France, puisqu'il avait des doutes terribles sur sa légitimité. Il pensait qu'il n'était pas fils légitime. Deuxième circonstance importante, Sainte Jeanne d'Arc va intervenir pour faire consacrer à la demande expresse de Dieu ce dauphin comme roi légitime du pays de France, à Reims. Troisième cas, troisième circonstance, le prince des cieux, notre Seigneur Jésus-Christ, va intervenir directement pour demander à ce que les Anglais soient boutés hors de France. On est en plein dans la politique. C'est évident que ceci entraîne pour la France des obligations très graves. Si la France est fille née de l'Église, ça correspond à des grâces toutes particulières que le bon Dieu a données aux Français. Il avait donné d'autres grâces à d'autres pays. Mais aux Français, il a donné une grâce spéciale. Ça veut dire que si les Français ne sont pas fidèles à ces grâces, ils auront des comptes à rendre beaucoup plus gravement que d'autres pays qui n'ont pas reçu ces grâces. Prenez un cas, je sais pas, prenez le cas par exemple de l'Australie, c'est un pays protestant, mais ils n'ont jamais eu la connaissance vraiment de la foi catholique, politiquement parlant, parce qu'ils ont toujours été sous l'influence protestante. En France, on a été sous l'influence catholique. Et donc, la France, et je vais vous citer ces textes extraordinaires que j'ai retrouvés en préparant mon serment, la France, justement, a des obligations graves précisément à cause des grâces qu'elle a reçues. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous aussi. Le bon Dieu demandera beaucoup plus à quelqu'un qui a reçu des grâces particulières. Imaginez un prêtre, par exemple. Un prêtre qui a été formé à un séminaire moderne, c'est-à-dire qu'il n'a rien reçu, aucune formation théologique, aucune formation philosophique, pratiquement rien, aucune formation spirituelle, pas de bréviaire, pas de méditation, rien du tout. Il n'a jamais rien reçu. Il raconte peut-être certaines bêtises, et même pas mal de bêtises, dans ses sermons. Il a des messes qui sont vraisemblablement invalides parce qu'on n'est même pas sûr qu'il soit prêtre. Il a beaucoup d'excuses. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien reçu. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Par contre, moi, j'ai reçu beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai été ordonné prêtre par Mgr Lefebvre, j'ai été formé par lui, j'ai reçu une formation traditionnelle. Donc le bon Dieu, le jour où je mourrai, le bon Dieu exigera de moi, d'Abbé Lafitte, beaucoup plus qu'il ne demandera d'un prêtre moderniste qui n'a rien reçu du tout. C'est pareil pour notre pays. Et donc, il y a des textes extraordinaires écrits par des saints, je vais vous en citer quelques-uns, qui rappellent justement que si la France est fidèle à sa vocation, parce qu'il y a une vocation particulière de la France, précisément parce qu'elle a été choisie par Dieu, qu'elle a reçu des grâces toutes particulières en tant que pays, en tant que fille aînée d'Église, si la France est fidèle, elle aura un degré de gloire extraordinaire. Mais si la France est infidèle, à cause de ses responsabilités, elle sera détruite par ses ennemis. Et il y a un texte extraordinaire que je vais vous citer parce qu'il est vraiment à connaître, prononcé par justement Saint Rémy le jour du baptême de Clovis. Donc Saint Rémy a eu une illumination pendant le baptême, et voilà ce qu'il a dit à toute la foule qui était là, commençant par Clovis qui était en train de baptiser. Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il soumettra tous les autres peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera durement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Et Saint Rémy insiste, toutes les fois, donc ça arrivera plusieurs fois. Ça, c'est en 496. Le deuxième texte qui est très connu, c'est une prophétie de Saint Pilice, qu'il a faite le 9 février 1911. Je vous lis aussi ce texte qui est magnifique, qui en même temps nous remonte le moral pour nous catholiques en France, mais qui en même temps nous met face à nos responsabilités. Voilà ce que disait Saint Pilice. Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fonds baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses fils qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique, et par-dessus tout, les gémissements de tant de petits-enfants qui, devant le tabernacle, répandent leur âme dans les expressions que Dieu met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais la France ne périra jamais. La fille de tant de mérites, de tant de soupirs, de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France, comme Saul, sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera Ma fille, pourquoi me persécutes-tu? Et sur sa réponse, Mais qui êtes-vous, Seigneur? La voix répliquera, Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regerber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. Et elle, tremblante, étonnée, dira, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Et le Seigneur répondra, Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter comme le passé mon nom devant tous les peuples et devant les rois de la terre. Le troisième texte, qui est également bien connu, c'est un texte de Pie XII. Pape Pie XII, en 1956, donc juste avant sa mort. Voilà ce que disait le pape Pie XII. Il n'est pas rare qu'aux instants les plus critiques, ainsi qu'un coup de vent, rompt les nuages et laisse voir l'étoile qui guidera le navigateur au port, le Seigneur envoie l'inspiration surnaturelle qui doit faire d'une âme le salut de son peuple. Levez donc les yeux, fils bien-aimé, digne représentant d'une nation qui se glorifie du titre de fille aînée de l'Église. Et regardez les grands exemples qui vous ont précédé. Levez les yeux et admirez ces splendides cathédrales qui demeurent parmi vous un vivant symbole de cette Église catholique au sein de laquelle vous avez grandi. Mieux encore, entrez d'un pas assuré dans la cathédrale de Dieu, vénérez les saints qui se trouvent sur ces autels, tombez à genoux devant le Dieu qui vous attend au tabernacle, renouvelez votre profession de foi, promettez-lui de nouveau votre fidélité la plus parfaite. Et soyez sûr que, ce faisant, vous répondrez à votre vocation d'homme, de chrétien et de français. S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi. De la sainte foi que rien ne peut abattre et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. Et j'ai rajouté deux autres textes que j'ai retrouvés qui sont eux des textes de l'Écriture sainte, mais qui s'appliquent exactement à cette fête. L'un, c'est un verset du psaume 8 de David. Si mes fils abandonnent ma loi, s'ils ne marchent point dans la voie de mes jugements, s'ils profanent mes justices et ne gardent point mes commandements, je visiterai leur iniquité avec la verge et leur péché avec le fouet. Mais je n'éloignerai jamais de ce peuple ma miséricorde. Et un autre texte, il dit la même chose au début de l'Écriture sainte, dans le Deutéronome au chapitre 11. Voici que je vous mets aujourd'hui devant les yeux la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui, mais la malédiction si vous n'obéissez point à ces mêmes commandements et vous retirez du chemin que je vous montre maintenant. Donc ces textes très beaux doivent nous rappeler la réalité des choses. La France est toujours fille de l'Église, même si la France est bien fatiguée aujourd'hui, plutôt malade, comme on dit. La France est malade dans son âme. Mais la France est toujours fille de l'Église, parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu a promis d'appliquer la bénédiction et la malédiction, en fonction de notre réponse à sa grâce. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Par le baptême, nous sommes donnés au bon Dieu. Le bon Dieu nous a promis ses grâces, mais en même temps, il respecte notre libre arbitre. Et si j'utilise mon libre arbitre pour refuser l'influence divine dans mon âme, alors à ce moment-là, évidemment, le bon Dieu se retirera de moi. Le bon Dieu ne se retire pas d'une âme, sauf si on le met à la porte. Quand on le met à la porte, il attend à la porte, mais il attend dehors. Il va frapper de temps en temps pour demander à revenir. C'est pareil pour chacun d'entre nous, et c'est pareil pour cette France complètement défigurée aujourd'hui. Alors, mes bien chers frères, il nous faut comprendre donc cette grâce que nous avons d'être français ou de vivre en France et de comprendre nos responsabilités énormes devant Dieu. Précisément parce que la France est fille aînée de l'Église, il y a une incompatibilité totale entre ce caractère particulier de la France et le laïcisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le laïcisme est incompatible avec la France parce que la foi catholique et la patrie sont intimement liées par volonté divine en France. On ne peut pas séparer ces deux choses. La France et la patrie doivent être unies. D'abord, parce que l'Église et l'État doivent être unis, mais spécialement en France. Et si vous prenez l'oraison que l'Église a composée pour cette fête de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est dit en toutes lettres qu'il faut prier le bon Dieu pour protéger justement la foi et la patrie. Les deux choses sont unies dans le texte. La foi et la patrie est d'empêcher et de lutter contre les ennemis et de la foi et de la patrie. C'est-à-dire la patrie française et la foi catholique sont intimement unies, comme les deux doigts d'une même main. Si vous séparez l'un, vous tuez les deux. Tu es la foi et la patrie. Les ennemis de l'un sont les ennemis de l'autre. Alors, la France ne peut pas être à la fois, ne peut pas conserver son intégrité, je dirais, sans la foi catholique. Et ceux qui luttent contre la patrie lutteront contre l'Église. Ceux qui luttent contre l'Église lutteront contre la patrie. Voilà ce qu'a toujours enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'enseigne l'Église catholique. Alors ceci doit nous remettre devant nos responsabilités. On entend souvent les gens se décourager, je peux comprendre un petit peu, quand on voit l'état actuel du pays, il y a de quoi être découragé, c'est moins qu'on puisse dire. Et rappelez-vous ce que disait aussi Saint-Bélise dans une autre prophétie, il a dit « On a les chefs politiques qu'on mérite ». Voilà ce qu'il disait. On peut aussi rajouter « On a les chefs religieux qu'on mérite ». Alors au lieu de se plaindre des chefs politiques que nous avons, et Dieu sait si on pourrait s'en plaindre, il faut comprendre que c'est peut-être bien un châtiment du bon Dieu. Et quand le bon Dieu châtie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime bien. Quand un père de famille, une mère de famille, reprend son enfant qui fait une bêtise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père de famille ou la mère de famille ont de l'amour pour leur enfant. Le jour où une maman dit à son petit, tu peux faire ce que tu veux, ça m'est complètement égal, l'enfant peut comprendre, ma mère ne m'aime plus. Au contraire, celui qui aime bien, châtie bien. Celui qui châtie son enfant, quand c'est mérité, avec prudence, avec mesure, avec intelligence, c'est évident, prouve qu'il aime son enfant. Eh bien, si nous avons le châtiment de Dieu sur notre pays, c'est parce qu'on l'a mérité, tout simplement. Depuis 1789, on a mis le bon Dieu dehors. Alors, ne soyons pas étonnés, si évidemment les choses ne vont plus du tout. Alors, je ne vais pas vous expliquer la vie de Sainte-Jeanne d'Arc parce qu'elle est très connue. Je n'ai pas le temps, un sermon de 20 minutes, d'expliquer tout cela. Mais je voudrais insister sur un point très particulier qui me semble peut-être le plus important. Le bon Dieu, tu es allé chercher un instrument. Mais avouez qu'il va, humainement parlant, il est allé chercher un drôle d'instrument. On peut se demander pourquoi le bon Dieu est allé chercher pour mettre comme chef de guerre une jeune fille de 17 ans qui ne sait même pas parler français, incapable de distinguer un A d'un B. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a appris à l'armée. Quand elle était à l'armée, elle a demandé à apprendre à lire et écrire. Et quand elle est arrivée à Orléans, elle ne savait ni lire ni écrire. Pourquoi est-ce que le bon Dieu est allé chercher un instrument pareil? Qu'auriez-vous pris, vous, comme instrument? Logiquement, je pense qu'on serait allé chercher un grand chef de guerre, un grand Charlemagne ou un grand Bayard. Non. Une jeune fille complètement, humainement parlant, inculte. Elle avait les vertus naturelles. Mais elle n'avait pas grand-chose d'autre, aucune connaissance de la science militaire, aucune connaissance des hommes, et le bon Dieu est allé chercher cet instrument-là. Pourquoi? Parce que quand les choses ne vont pas, le bon Dieu attend pour se rappeler notre bon souvenir. Et il attend qu'on descende, qu'on descende, qu'on descende et qu'on tombe au fond du gouffre. Et quand on est au fond du gouffre, à ce moment-là, il envoie un instrument qui, humainement parlant, est tellement faible que personne ne peut dire « c'est l'instrument qui a fait le travail ». Les gens seront obligés de dire « c'est Dieu qui a fait le travail par L'instrument. Ah, peut-être qu'on n'est pas encore au fond du gouffre. Et c'est pour ça que le bon Dieu ne va pas envoyer une deuxième Sainte Jeanne d'Arc. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi que le bon Dieu peut vous utiliser, vous ou moi, comme instrument. Il peut utiliser n'importe qui. S'il a utilisé Sainte Jeanne d'Arc, vous et moi qui sommes encore bien plus faibles qu'elle, humainement parlant, il peut aussi nous utiliser. Quelle est la condition pour nous? D'être dans une situation de dépendance à l'égard de Dieu. De pouvoir dire à Dieu à longueur de journée, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Et on voit très bien, c'est sur ce point que je voudrais insister. Avant de demander à Sainte Jeanne d'Arc de quitter sa famille pour aller à Vaucouleurs recevoir du sire de Baudricourt une petite escorte pour aller chercher le dauphin, et après aller délivrer la ville d'Orléans, le bon Dieu s'est occupé d'elle d'une façon toute spéciale. Et on voit très bien dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc qu'il a exigé d'abord une chose, condition sine qua non, que Sainte Jeanne d'Arc ait une forte vie intérieure. N'oublions pas ce proverbe que je vous ai déjà souvent cité, on ne peut rien comprendre à ce qu'est la révolution sans réaliser que la révolution, c'est la haine formelle de toute forme de vie intérieure. Donc pas de contre-révolution possible sans vie intérieure personnelle. Alors, le bon Dieu s'en est occupé, il s'en est bien occupé. Il a envoyé Saint-Michel, Sainte-Marguerite, Sainte-Catherine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chanter des chants religieux? Non. Ils ont appris à Sainte-Jeanne d'Arc à prier. Ils ont donné une vie d'oraison forte à Sainte-Jeanne d'Arc. Et une fois qu'elle a compris ce qu'était l'oraison, d'où l'importance de l'oraison, de la méditation, de la contemplation, une fois qu'elle a eu cette vie intérieure profonde, à ce moment-là, les voix lui ont dit, va, fille de France. Et Sainte Jeanne d'Arc n'a jamais oublié les choses. Je vous répète, parce que c'est tellement important, ce qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc en arrivant à Orléans, parce que c'est un point absolument fondamental, on ne peut rien comprendre à la vie de Sainte Jeanne d'Arc et à son efficacité sans comprendre ce point essentiel. Qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc en arrivant à Orléans? Les Français étaient en guerre là depuis pratiquement un an. Les Anglais étaient en train de tout envahir en France, en pleine guerre de 100 ans. N'oubliez pas que Sainte Jeanne d'Arc a été suscitée par Dieu d'abord pour nous préserver du protestantisme. Elle est morte en 1431, 90 ans après, c'était la révolte de Luther. 1431, 90 ans après, c'était la révolte de Luther et l'apostasie de l'Angleterre. L'île des Saints devenait par l'apostasie du roi Henri VIII la capitale du protestantisme. Sans Sainte Jeanne d'Arc, nous serions tous protestants. Rien que ça. Et qu'est-ce qu'a fait donc Sainte Jeanne d'Arc en arrivant à Orléans? Elle a exigé que tous les soldats, commencés par les officiers, se confessent et communient. Et elle a mis dehors toutes les femmes de mauvaise vie qui étaient dans le camp. Voilà ce qu'elle a fait. Et voilà ce qu'avait compris Sainte Jeanne d'Arc. Et à ce moment-là, une fois que tous les soldats se sont confessés, à ce moment-là, ils ont obtenu la victoire. Et lors de son procès, les juges lui ont demandé, mais puisque c'est Dieu qui intervient, Dieu n'avait pas besoin, pourquoi le bon Dieu avait-il besoin des hommes d'armes pour obtenir la victoire? Vous ne pouvez pas faire le travail lui-même tout seul? Et Sainte Jeanne d'Arc de répondre, les hommes d'armes bataillerons et Dieu donnera la victoire. Mais d'abord, les hommes d'armes doivent batailler. C'est la même chose pour nous. Donc, que devons-nous faire? Au lieu de pleurer, il faut nous aussi passer par les mêmes moyens, parce que les mêmes moyens sont nécessaires pour obtenir les mêmes effets. Quel est ce moyen? Avoir une vie intérieure profonde. Devenir des hommes de prière. Si nous devenons des hommes et des femmes de prière, à ce moment-là, nous pourrons devenir des instruments du bon Dieu. Nous ne pourrons pas devenir des instruments du bon Dieu tant que nous ne devenons pas des hommes de prière. Et je pense que si la France est devenue une gigantesque poubelle aujourd'hui, c'est précisément parce que la vie intérieure a pratiquement disparu dans le pays. C'est le prophète Jérémie, je crois, qui disait que le monde gémit parce qu'il n'y a plus personne qui ne sache méditer. Alors, demandons à Sainte Jeanne d'Arc, mes bien chers frères, demandons à Sainte Jeanne d'Arc ces grâces dont nous avons besoin pour qu'elle nous donne la force, la sagesse, le conseil, la crainte de Dieu, tous les dons du Saint-Esprit, pour que nous puissions devenir des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, des petits instruments de rien du tout. C'est ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, le bon Dieu pourra faire des miracles avec chacun d'entre nous. Regardez un autre instrument extraordinaire, encore plus extraordinaire que celui qui a été Sainte Jeanne d'Arc, notre Sainte Vierge Marie. Humainement parlant, petite jeune fille de 14 ans, un tout petit pays, la Palestine, au Moyen-Orient, petit pays inconnu, petite village, petit hameau inconnu. Et le bon Dieu est allé chercher cette petite jeune fille de 14 ans pour en faire la reine du ciel, pour en faire sa mère et la mère de l'Église. Alors il faut prier Sainte Jeanne d'Arc, mais il faut aussi prier notre Sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui avait l'esprit d'adoration, c'est bien elle. S'il y en a une qui avait compris ce qu'était la contemplation, c'est bien elle. Alors demandons à ta Sainte Vierge Marie de nous donner justement cet amour de la prière, de comprendre la nécessité de la prière, que nous ne pouvons pas survivre et que nous ne pourrons jamais être les instruments que le bon Dieu veut que nous soyons, précisément sans une vie intérieure profonde. Voilà toutes ces grâces que nous demanderons par l'intermédiaire de ta Sainte Vierge Marie et l'intermédiaire de Sainte Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.